Alors, ici, on a ouais, 3 ou 4 heures à l'étude où on va juste déposer parmi nous quelques idées pour voilà, les explorer peut-être à d'autres moments. On voulait vous parler d'abord du film de Charlotte Cherici, Pourquoi tordu, qui date de 2018. Peut-être que Charlotte est parmi nous en ligne, mais je voulais dire quelques mots sur son travail. Donc Charlotte Cherici est une artiste née en 93 qui vit à Marseille et qui va régulièrement, qui est allée à plusieurs reprises, je crois, en Amérique latine et notamment au Pérou, où elle s'est, dans la région d'Iquitos, intéressée à des centres de soins, autour desquels s'est créée une étrange micro-société, une micro-société qui est faite à la fois de guérisseurs. Deux populations qui sont autour de ces guérisseurs et d'occidentaux qui viennent chercher des soins et des récits considérés comme alternatifs. Donc le terme est assez intéressant. Et dans ce film, elle montre l'arrivée d'occidentaux qui viennent chercher ces soins et qui d'une certaine manière, intéressent et interrogent beaucoup les communautés, notamment les enfants. Qui se prennent à imiter les séances de soins. Et ce film s'appelle Pourquoi tordu, pour une raison que je trouve assez intéressante et qui donne à voir, à comprendre tout le film. C'est que il est assez étonnant, et c'est un petit peu ce que Charlotte, je pense, essaye de nous montrer avec ce film, où il y a beaucoup de syncrétisme. Étonnant que des Occidentaux viennent chercher en Amérique latine, et donc là dans la région d'Iquitos au Pérou, des savoir-faire, des guérisseurs qui ont été complètement éradiqués par leurs ancêtres colons. Et donc voilà, elle pose cette question ou en tout cas, eux posent la question de pourquoi ces Occidentaux, ces héritiers viennent chercher ce qui a été éradiqué par leurs prédécesseurs.
Ça va être difficile peut-être dans ce temps-là d'écouter l'ensemble du film qui est assez
C'est
long.
un extrait. C'est un extrait.
Pardon?
C'est un tout petit extrait.
C'est un tout petit extrait.
Où justement on voit les enfants qui jouent au rituel. Voilà, pour les visiteurs qui sont en ligne, quand l'exposition pourra réouvrir, vous pourrez découvrir cette vidéo dans son ensemble. Voilà, pour aller assez rapidement, une deuxième œuvre à l'étude qui est celle de Stéphanie Raimondi, qui s'appelle Qui vive, qui date de 2016, pour laquelle je laisse Stéphanie, qui est avec nous, dire quelques mots.
Je vais essayer aussi d'être assez concise. C'est une installation que j'ai déjà présentée en 2016 et ça m'intéresse beaucoup ici de la réactualiser. Donc j'ai rajouté des éléments, j'en ai également enlevé, c'est important. J'ai vraiment tenu compte également du lieu dans lequel elle était présentée. Pour vous décrire très rapidement, elle est composée de 17 tourbillons noyés, tournés et gravés, d'une coupole en laiton couverte tant de l'eau et de la poudre de marbre, ainsi que d'une gravure sur bois à partir de la reproduction. En matière postale, une statuette représentant une déesse au serpent du palais de Knossos en Grèce. En général, je mène un travail d'enquête en amont. Je crée des rapports entre des sources hétérogènes dans mon travail. Et tout l'enjeu après, c'est de les faire consister dans l'espace et dans le temps, de leur donner plusieurs épaisseurs. Ici, j'étais partie d'une trilogie littéraire à l'époque. le rival des cirques, des airs des Tartares et sur les falaises de marbre. Et également la découverte de cette petite carte postale, de cette très jolie déesse au serpent. Et à partir de cette documentation-là, j'ai commencé à imaginer, enfin à dessiner un paysage. Je viens ici. Ce qui traverse un petit peu toutes ces références, c'est, pour cette trilogie littéraire, c'est vraiment cette question de l'attente. Ce sont des romans traversés de mouvements souterrains, de micro-événements, de phénomènes imperceptibles, que seul un sujet éveillé peut percevoir. Et du coup, voilà, il y avait aussi cette idée-là dans cette installation, déjà d'une attention assez forte aux matériaux, donc avec l'idée d'une constellation de forces comme ça qui pourrait être, en présence. C'est toujours un petit peu compliqué de travailler avec son travail. Je voulais revenir aussi sur cette petite déesse au serpent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était considéré comme une déesse de la fertilité de la nature, capable de nouer une communication avec un monde surnaturel. Et donc, du coup, les Minoens célébraient cette déesse dans des sanctuaires naturels et ainsi que dans des petits sanctuaires domestiques. Dans l'ouvrage de Hugues, on retrouve également le personnage de cette déesse au serpent, qui vient en fait tous les soirs tirer une bassine de lait et nourrir les serpents autour. Et du coup, ce qui m'intéressait, voilà, c'est d'un côté d'avoir ces matériaux en présence, et d'avoir également, dans un deuxième temps, la question d'une sorte de mise en récit, puisque dans ce petit cartel noir, en fait, qui peut soit fonctionner comme un petit monolithe, si on s'approche, en fait, on trouve engravé cette figure de la déesse, qui peut comme ça en fait venir donner une sorte de second temps de mise en récit de cette installation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça fonctionne un peu à la manière d'une partition. Du coup, quelque chose qui vient comme ça espacer le temps, espacer l'espace. J'aime beaucoup l'idée d'une image comme ça qui permet de... c'est Maya Deren dans son film, qui parlait vraiment de l'image comme une manière de se positionner dans le temps et l'espace, de s'orienter. Et voilà, donc, peut-être que ces éléments, ces tourillons, qui peuvent être bâtons de passeurs, qui peuvent être éléments de partition, voilà, sont aussi, et qui sont en fait en eux-mêmes engravés en fait, de petites marques en fait, dans le bois. Voilà, peuvent aussi fonctionner de cette manière.
Bon, merci.
Il y a deux autres œuvres à l'étude dont je vais vous parler très brièvement, qui est donc tout d'abord une œuvre de Célia Gondol, qui est une artiste française qui est également chorégraphe et interprète dans le domaine de la danse, qui influence beaucoup sa pratique plastique. Et l'œuvre qu'elle présente au sein de l'exposition rituelle ici à l'IAC est un mandala qu'elle a réalisé avec trois autres artistes de l'exposition, Clarissa Baumann, Suzanne Husky et Sandra Lorenzi. Donc vous voyez des graines déposées au sol, graines de sésame, lentilles corail et graines de nigel, avec un dessin qui entremêle deux compositions influencées par des découvertes majeures dans le domaine de la physique quantique. D'une part, l'une des premières observations d'antiparticules faites par le physicien américain Carl David Anderson au début des années 30, et de l'autre, une simulation réalisée avant la découverte du fameux boson de Higgs en 2012. Et les deux dernières œuvres à l'étude sont des œuvres d'Anna Mendieta, qui est née en 1948 à La Havane, à Cuba, qui est morte prématurément en 1985 à New York. On sait qu'à l'âge de 12 ans, Anna Mendieta arrive aux États-Unis dans le cadre de l'opération Peter Pan, qui est donc ce dispositif mis en place par le gouvernement américain destiné aux enfants cubains dont les parents étaient opposés au régime castriste. Et cet arrachement à la terre natale va constituer un événement traumatique auquel l'ensemble de son œuvre fait très largement écho. De 1973 à 1980, Anna Mendieta réalise la série la plus connue et aboutie dans son travail, les Siluetas Works, qu'elle réalise soit en Iowa, où elle vit depuis son exil forcé aux États-Unis, soit au Mexique, Mexique qui lui rappelle le Cuba de son enfance. Ces Siluetas sont des performances qui vont être systématiquement photographiées et filmées, exécutées en prise directe avec l'environnement, qui vont mêler body art et land art dans ce qu'elle a appelé un earth body art. Dans Burial Pyramid, qui est une œuvre de 1974 et qui est l'image de gauche à l'écran, son corps émerge progressivement d'un monticule de pierre au rythme de sa respiration. C'est une œuvre qu'elle réalise sur le site archéologique précolombien de Yagoul au Mexique. Dans Silueta de Arena, qui est une œuvre de 1978, c'est ici une silhouette qui se substitue au corps de l'artiste qui ne fait plus qu'un avec son environnement. Voilà.